enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.
Bien fait de venir ce soir. Peut-être qu'il y avait quelque chose de bien à la télé. J'ai pas entendu. Moi, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé ce qu'il y avait sur le programme. Des fois, il y a des matchs de foot, par exemple. Bon, mais vous êtes là. Vous êtes là, hein. Donc c'est bien, je trouve. Vous avez bien fait. Il y a des gens qui sont en train de toujours zapper d'une chaîne à l'autre, hein. Pas toujours sur Al Hayat. Ça va, c'est comme ça, c'est bon. Ouais. Tu vois, ça, on peut y arriver. Et tu passes d'une chaîne à l'autre, d'une chaîne à l'autre. Et puis finalement, maintenant, il y a de plus en plus de chaînes. Et il y a un moment où les chaînes deviennent des chaînes. Et finalement, on finit par être complètement enchaîné. Mais moi, je trouve que c'est bien qu'ils aient appelé ça des chaînes. Au moins, comme ça, c'est clair. On sait que c'est des chaînes. Hein? Est-ce que nous sommes libres, hein, avec ces choses-là? Est-ce que nous sommes libres? Est-ce que nous pouvons décider réellement ce que nous faisons? Est-ce que nous avons est-ce que c'est une vraie liberté? Et ce soir, j'aimerais parler un petit peu de ça, de chaîne, de liberté, d'esclavage, de libération. Le mot liberté, libération, voilà, c'est des mots qui peuvent être un petit peu quelquefois galvaudés. Hein. J'arrive d'une région qui s'appelait le Dauphiné, et qui s'appelle toujours le Dauphiné, et où la feuille de chou locale, je veux dire le journal, s'appelle le Dauphiné libéré. Voilà. Mais maintenant, les gens achètent le Dauphiné libéré. Libéré de quoi? On sait pas. Nous, moi, j'étais pas né quand le Dauphiné a eu besoin d'être libéré, hein. Mais ça peut devenir simplement des mots, quoi. Hein. On peut être libéré de tas de choses. On parle beaucoup de libération. On a parlé de la libération de la femme, par exemple. On a parlé de tas de choses. Mais la Bible parle de liberté aussi, d'esclavage, de chaînes. Et c'est même, je dirais que c'est même un thème extrêmement central dans la parole de Dieu. Alors, je voudrais pas être long ce soir, mais je voudrais juste faire un petit peu, voir quelques versets, faire un petit panorama de quelques versets, voir ensemble quelques versets qui nous parleront de libération, comment Christ libère. Et dès maintenant, je voudrais dire à ceux d'entre nous qui ressentent dans leur âme, dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur être intérieur, qui ressentent la nécessité d'une libération, qui pensent, vous tous qui vous dites, mais moi, je soupire après ça. J'aimerais que quelque chose craque. J'aimerais que quelque chose se détende. Ou que quelque chose saute, explose. J'aimerais être changé dedans. Alors, je vais vous dire, écoutez bien. Écoutez bien. Pas pour écouter ce que moi je vais vous dire, mais pour écouter ce que la parole de Dieu dit. Ce que la parole de Dieu dit. Parce que la parole de Dieu libère. La parole de Dieu contient la libération. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et si ce soir quelqu'un a besoin de cette libération, a besoin que cette espèce de chaîne ou de chapeau qu'il y a sur ses pensées, ces espèces de carcans, tous ces trucs qui l'enserrent, qui l'oppressent, qui l'oppriment, qui le taraudent comme ça. Eh bien, si vous avez besoin que quelque chose de nouveau se passe en vous, alors regardez à Jésus Et ces versets que nous allons lire comme ça, alors écoutez-les avec votre cœur, écoutez-les de l'intérieur. C'est pas votre capacité à les comprendre qui vous libérera. C'est pas votre capacité à les apprendre par cœur. Ce n'est pas votre capacité à pouvoir en faire une étude biblique. C'est la puissance du Saint-Esprit qui vous les révèle, qui vous libère. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui communique la vie que Dieu a mis dans sa parole. Et lorsque vous recevez cette communication de vie, alors cette communication de vie passe dans votre être, elle passe dans votre cœur, elle passe dans vos pensées, elle passe dans votre intelligence, elle passe dans votre compréhension, dans votre conscience, dans votre volonté, elle passe dans votre capacité de réflexion, elle passe dans vos connaissances religieuses, elle passe dans vos traditions, elle passe dans les blessures de votre âme, elle passe dans votre affectif. Et cette puissance de la parole de Dieu, quand elle est révélée par l'Esprit de Dieu, c'est elle qui vous libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Je voudrais juste lire en introduction un passage qu'on connaît bien dans le livre de l'Exode. Le livre de l'Exode, c'est le livre de la libération, c'est le livre de la sortie de l'esclavage, c'est le livre de la sortie de l'Égypte. C'est la victoire sur Pharaon. Exode chapitre 1, verset 1. Pardon, on va commencer au verset 8, pardon. Chapitre 1, verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Et ce nouveau roi dit à son peuple, « Voilà que les enfants d'Israël forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à leur égard. Empêchons qu'ils ne s'accroissent et que, s'il survient une guerre, ils nous combattent et qu'ils sortent ensuite du pays. Alors on établit sur Israël des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. Et c'est comme ça qu'on a construit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on accablait le peuple, plus il multipliait, plus il s'accroissait. Et on se mit à avoir de la haine pour les enfants d'Israël. Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'on leur imposait tous ces travaux, toutes ces charges. Et alors le roi d'Égypte a parlé aussi aux sages-femmes des Hébreux. Il y en a une qui s'appelait Chifra, l'autre Poua. Et il leur dit, écoutez, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, quand vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignaient Dieu. Et ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Et elles laissèrent vivre tous les enfants. Alors le roi d'Égypte appela les sages-femmes, il leur dit, « Pourquoi est-ce que vous avez agi comme ça? Pourquoi est-ce que vous avez laissé vivre les enfants ?» Mais les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant même que nous arrivions. » Alors Dieu a fait du bien aux sages-femmes. Et le peuple continuait de se multiplier et ils devenaient très nombreux parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu les fit prospérer avec leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra. Vous laisserez vivre les filles. Voilà une situation tellement dramatique. Tragique, horrible. C'est extraordinairement terrible la situation de ce peuple. Un peuple qui était privé de liberté, qui n'avait plus le droit de sortir du pays, qui n'avait plus le droit d'aller où il voulait, et qui était accablé de travaux. Et on dit des travaux en argile et en briques, c'est-à-dire, c'est un procédé littéraire, on leur faisait fabriquer des briques d'argile avec de la paille. C'est quelque chose que j'ai vu faire en Afrique combien de fois. Mais c'est un rude travail. Il ne s'agit pas simplement de mettre de l'argile dans des petits moules, mais c'est qu'avant, il faut préparer cette terre. Il faut la mouiller, il faut la pétrir, il faut la mélanger avec de la paille pour que cette paille fasse des fibres dedans et que les briques ne se fendent pas, ne se cassent pas trop facilement. Et c'est beaucoup, beaucoup de travail. On voyait les gars être obligés de marcher, de pétrir cette argile comme ça pendant longtemps, et puis remettre de la paille, et puis il faut la laisser plusieurs jours fermenter, remettre de l'eau, et puis reprendre et tout ça. Après, il faut encore la mettre dans les briques, après il faut étaler les briques, après il faut les laisser sécher, après il faut les empiler. Et puis après, ben, avec ça, on construisait encore. Quand on a fait des briques, on n'a pas fait une maison. Et alors... Les Hébreux étaient vraiment, ils étaient accablés, ils soupiraient. En plus de ça, il fallait que, en plus, ils subviennent à leur propre subsistance. Donc, ils devaient encore aller travailler dans les champs, et ils devaient travailler aussi pour leur maître. Et puis, ils étaient frappés. Et puis, après tout ça, on a commencé aussi donc cette forme de génocide lent, en tuant tous les garçons, bien sûr. On vise le génocide de ce peuple, mais lentement, tranquillement, on les garde quand même tant qu'on a besoin d'eux pour le travail. Et combien de drames, combien de parents ont eu le cœur ulcéré de voir leurs enfants comme ça mourir, arrachés, être jetés en pâture sur le fleuve aux crocodiles. C'est une situation extraordinaire. Et je crois qu'il y a dans cette image, l'image de tout ce qu'est l'esclavage. Et si la parole de Dieu nous dépeint ce tableau, c'est pas seulement pour nous dépeindre une situation historique, mais c'est pour que cette image saisissante puisse frapper notre cœur. Parce que cette situation n'a pas perduré comme ça toujours. Un jour, ce peuple est sorti de son esclavage. Il est sorti du pays lui-même, il est sorti de sa situation, il est sorti du pays et il est sorti de sous l'autorité de ce roi méchant. Il a fallu du temps et surtout il a fallu beaucoup de miracles. Il a fallu une intervention de Dieu parce que eux-mêmes étaient incapables de le faire. Ils étaient incapables de s'organiser. Ils étaient incapables de trouver les ressources. Ils étaient incapables de former peut-être une armée, un gouvernement. Ils étaient incapables de se concerter. Ils étaient pieds et poings liés. Ils pouvaient rien faire. Mais Dieu est intervenu. Dieu est venu. Et un jour, ils sont sortis. Vous connaissez cette histoire avec Moïse. À leur tête, ils sont sortis. Mais pour sortir de là, ils ont dû sortir en étant sous la protection de Dieu. Et Dieu avait dit, vous prendrez dans chaque famille, vous prendrez un agneau, vous l'égorgerez, vous prendrez de son sang, et vous mettrez de ce sang sur le linteau et sur les poteaux de la porte. Alors quand Dieu passera, alors vous serez sauvés, Dieu ne vous touchera pas. Ça veut dire que, en eux-mêmes, ces gens-là, n'étaient pas meilleurs que les autres, même s'ils étaient victimes, mais au fond d'eux-mêmes, ils étaient aussi des pécheurs. Et Dieu les a pas sauvés parce qu'ils étaient meilleurs que les autres. Ils sont pas sortis parce que ils le méritaient. Ils sont sortis parce que la grâce de Dieu a agi puissamment pour les sortir de là. Mais pour que cette grâce agisse, pour que le châtiment qui devait tomber sur les méchants ne tombe pas sur eux, alors Dieu les a couverts du sang de l'agneau. Et c'est le sang de l'agneau qui les a gardés de la colère. Et puis après toutes les péripéties, ils ont traversé la mer Rouge et ils sont arrivés de l'autre côté. Et comme Pharaon continuait de vouloir les poursuivre, alors toute l'armée de Pharaon est entrée aussi dans les eaux qui s'étaient écartées et toute l'armée de Pharaon a été engloutie dans les flots. Le lendemain, ils avaient tous traversé, ils étaient de l'autre côté dans un monde nouveau et ils voyaient les cadavres des soldats qui les avaient poursuivis, ils les voyaient ici et là, épars, noyés dans l'eau. Et toute cette image est une image qui doit nous servir à nous donner confiance. C'est une image qui doit nous communiquer la foi. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est capable de nous sortir d'Égypte. Notre Dieu est capable de nous sortir de la férule du Pharaon. Notre Dieu est capable de briser les chaînes des esclaves. Notre Dieu est capable de nous rendre libres. Il agit parce qu'il est le Dieu de vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus a dit, je suis la vérité. Et quand il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, il est en train de dire que la liberté se trouve en lui-même personnellement. La vérité est dans la connaissance de Jésus, pas la connaissance historique, simplement de savoir ce qui est arrivé. Jésus né sous Ponce Pilate, etc. Et puis mort et ressuscité. Des tas de gens savent ça, ils sont pas libres. Mais ils n'ont pas la connaissance de Jésus. Ils ont seulement la connaissance d'une histoire, d'un historique. Mais ils ne connaissent pas Jésus. Mais si vous connaissez Jésus, alors la vérité, Jésus-Christ, vous rendra libre. Jésus veut vous rendre libre. Je crois que maintenant, quelqu'un reçoit cette pensée que depuis longtemps il avait abandonnée. Quelqu'un est en train de dire, et si c'était vrai? Et si peut-être c'était vrai? Et si ce que ce type dit là-bas est vrai? Est-ce que peut-être je pourrais pas quand même espérer encore un jour être libre? Eh bien, tu as raison. Tu as raison d'espérer. Jésus est la vérité. Et Jésus rend libre. Alléluia. Alléluia. On va lire encore dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 8. Jean, au chapitre 8. C'est un chapitre que j'aime bien. J'aime beaucoup lire Jean 8. J'aime bien ce genre de confrontation que Jésus menait avec une détermination extrême. Hein? On imagine quelquefois dans certaines traditions, on imagine Jésus comme quelqu'un qui passait toujours très effacé, très gentil, très... Oui, Jésus est très gentil. Jésus est très doux. Mais Jésus n'a jamais reculé devant les défis, devant les conflits et devant les provocations. Et Jésus a répondu avec beaucoup de force à ceux qui s'opposaient à la vérité. Et la plupart des discussions de Jésus sont des discussions extrêmement conflictuelles. Et dans Jean 8 au verset 30, nous lisons comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Mais Jésus dit à ceux qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Hein? Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Mais ils lui ont dit, nous, on est la descendance d'Abraham. On n'a jamais été esclaves de personne, nous. Qu'est-ce que tu nous racontes? Vous deviendrez libres. Hein? Écoutez bien ce que je vais vous dire, les gars. Leur répliqua Jésus. Celui qui se livre au péché en est esclave. Mais l'esclave ne peut pas rester toujours dans la maison. Il n'est pas chez lui. Le fils, oui, bien sûr, il demeure chez lui. Mais si c'est le fils qui vous rend libre, hein, alors vous serez réellement libre. Hein. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, bien sûr. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Mais lui dire quoi, notre père, c'est Abraham notre père. Ben, Jésus leur dit, alors si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, alors vous feriez les œuvres d'Abraham. Et maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. C'est pas ce que Abraham faisait, hein. Vous faites les œuvres de votre père. Ils ont dit, mais nous, on n'est pas des bâtards, hein? Nous avons un seul père, et c'est Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était vraiment votre père, vous m'aimeriez. Parce que c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi est-ce que vous ne comprenez rien de ce que je vous dis? Mais parce que vous ne pouvez même pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier depuis toujours et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit des mensonges, il parle de sa vraie nature parce qu'il est le menteur, il est le père du mensonge. Et moi, comme je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous pourrait me convaincre de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi est-ce que vous ne me croyez pas ? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et les gens étaient fâchés. Ils étaient fâchés contre lui. Ils étaient fâchés parce qu'il disait la vérité. Et parce qu'ils avaient pour père le mensonge. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Un des versets de toute la Bible que je préfère, c'est 8:36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Comme ce verset est puissant. J'aime ce verset. Si le Fils vous affranchit, vous serez libre. On pourrait dire que c'est une tautologie, c'est un pléonasme. Si vous êtes libre, s'il vous affranchit, vous serez libre. On dit évidemment. Et Jésus ajoute encore en plus, réellement. Dit comme ça, on va le savoir alors. Mais Jésus sait combien les gens ont de la peine à croire la vérité. Combien l'homme naturel a de la peine à rentrer dans la connaissance de la vérité. Mais ce que nous avons besoin, c'est pas simplement de sortir d'Égypte, mais c'est que l'Égypte sorte de nous. Nous n'avons pas seulement besoin de sortir de l'esclavage du Pharaon. Nous avons besoin de lui dénier toute place en nos cœurs pour que lui-même sorte et pour que lui-même n'ait plus aucun droit. Jésus a révélé, voyez, à ces gens qu'ils étaient des esclaves, mais contrairement aux Hébreux qui étaient en Égypte, eux ne savaient pas qu'ils étaient des esclaves. Et ils ont été extrêmement choqués qu'on les traite d'esclaves et de fils illégitimes. Ah oui, j'ai dit bâtard, oui. C'est ce qu'on dit normalement, quoi. Ils étaient choqués. Quoi ? Nous traiter d'esclaves ? Nous qui sommes des gens libres, Ils ne savaient pas que d'ailleurs, à moins d'une génération, il n'y aurait plus d'hommes libres, en Palestine, parmi les Juifs. Jésus a dit, vous appuyez sur des fondements qui sont faux. Vous appuyez sur votre descendance historique, biologique d'Abraham. Mais ça n'a aucune valeur. Ce qui est intéressant pour vous, c'est que votre cœur soit attaché à la foi d'Abraham. Mais vous ne vous conduisez pas comme eux. Vous ne vous conduisez pas comme lui, pardon. Chers amis, quoi que ce soit que nous fassions pour devenir libres, rien ne réussira si ce n'est pas Jésus qui nous libère. Quelles que soient les techniques, les façons qu'on peut prendre pour essayer de se traiter, pour essayer de se restaurer, pour essayer de s'appliquer des thérapies, tant mieux pour tout ce qui est efficace, pour tout ce qui réussit. Mais j'aimerais vous dire que tout ce qui nous affranchit réellement au fond de nous-mêmes ne sera jamais autre chose que la vérité de Jésus-Christ. Il n'y a pas de libération autrement que dans le nom de Jésus. Je ne parle pas de libération uniquement dans le sens d'être libéré de puissances mauvaises, d'esprits mauvais qui existent et dont nous avons besoin aussi d'être libérés. Mais nous avons besoin, l'homme naturel a besoin d'être libéré de beaucoup de choses. Combien de gens sont sous l'esclavage de Pharaon? Combien de gens aujourd'hui sont accablés de rudes travaux en briques? Combien de gens ramassent de la paille tous les jours et font des briques? Combien de gens sont obligés de travailler sans cesse? Combien sont obligés de poursuivre des objectifs qui ne dépasseront pas les choses de ce temps? Combien d'entre nous emmènerons-nous nos maisons le jour où nous mourrons? Elles seront peut-être pas en briques, elles sont en parpaing, en moellon, en bois, en quoi? Qui emmènera la sienne? Le malin, le diable, tente de nous concentrer sur tous les sujets qui ne sont pas essentiels. Blaise Pascal a parlé de ça d'une manière extraordinaire. Il parle du divertissement. Il dit, un roi sans divertissement est un homme plein de misère. C'est-à-dire, même un roi, tout roi qu'il est, s'il n'est pas diverti dans son âme, c'est-à-dire s'il n'y a pas quelque chose qui peut coucouner son âme pour qu'il se sente bien ici, il va être malheureux. L'homme a besoin d'être distrait pour oublier sa condition. Mais ce soir, je vous propose pas une distraction. Je vous propose de centrer vos yeux sur Jésus-Christ et de regarder les choses comme elles sont réellement. Et que celui qui a besoin d'être délivré dise « j'ai besoin d'être délivré ». Nous avons Abraham pour père. On pourrait bien dire nous avons l'église machin pour « je fais partie de telle confédération ». Et alors ? Et alors ? Avec ça, ça te rend libre? Celui qui nous rend libre, hein? Celui qui nous rend libre, c'est Jésus-Christ. Hein? C'est Jésus-Christ. J'aimerais tout à l'heure, on va prier. J'aimerais que nous prions pour que vous puissiez... comment je pourrais dire ça? Je voudrais pas prier pour vous. Je voudrais prier pour que vous soyez capable de prier pour vous. Je voudrais prier pour que vous puissiez réclamer, crier à Dieu, pour que cette révélation de la qualité de vainqueur de Jésus-Christ pour vous, que cette qualité de vainqueur vous soit révélée, pour que vous puissiez être délivré de l'espoir de devoir faire des choses pour plaire à Dieu. Par exemple, ça c'est un esclavage. Combien de gens sont esclaves de ça? Ils pensent qu'ils doivent plaire à Dieu, ils pensent qu'ils doivent faire des œuvres, ils pensent qu'ils doivent faire des choses, mais c'est un esclavage. Tu n'en sortiras jamais, plus tu en fais, plus la boucle se resserre sur toi, parce que tu sais toujours que tu n'en as pas fait assez. Alors toujours tu fais plus, et toujours tu te dis, mais est-ce que Dieu a vu au moins ce que je fais? Alors de temps en temps, on lui fait signe, c'est moi qui fais ça. Et on se trompe de problème. On part dans des problèmes complètement faux. Beaucoup de gens ne savent pas qui sont leurs vrais ennemis. Comme ils ne savent pas qu'ils sont esclaves, ils ne connaissent pas leurs vrais ennemis. Des fois, on craint des choses qui ne sont pas des vrais dangers. Et puis les vrais, alors on tombe dedans la tête la première. Je vous ai jamais raconté ce qui m'est arrivé une fois. Bon, c'est une petite anecdote comme ça. Je visitais quelqu'un dans un institut spécialisé où sont des gens qui sont pas très bien dans leur tête, quoi. Hein. Et puis, j'étais comme ça, je traversais un couloir. Et j'ai vu, il y avait quelqu'un qui était dans une cellule comme ça. Il y avait une petite fenêtre avec des barreaux. Et j'ai vu derrière un monsieur en style Chabal, vous voyez? Un grand coquin comme ça. Il secouait la porte frénétiquement. J'ai dit, oula. Et je passais dans le couloir comme ça, et il secouait la porte. Et il a secoué tellement la porte que le verrou casse. Et voilà mon gaillard qui déboule dans le couloir comme ça. Oups. Il était là comme ça. Déboule. Alors j'ai fait un pas en arrière. Il en a fait un vers moi. J'en ai fait deux un peu plus vite. Il a commencé à venir vite. Je me suis mis à courir. Je suis parti. Je courais. Et l'autre me coursait derrière. Je suis arrivé au bout. Il y avait un petit escalier comme ça. J'ai descendu l'escalier à toute allure. L'autre, il me courait derrière. Je suis arrivé au fond. Il y avait une espèce de couloir. C'était un cul-de-sac. J'étais le dos au mur comme ça. Le gars se précipite sur moi à toute allure comme ça. Il me touche doucement à l'épaule, tout doucement comme ça. Il me dit... Touché, à toi de m'attraper. Et il repart en courant. Bon. Même si l'histoire n'est pas vraie, elle peut servir, hein. Alors... Ça, c'est juste pour dire que, c'est juste pour illustrer que nous pouvons nous tromper d'ennemis. Craindre des ennemis qui ne nous veulent pas tellement de mal, mais nous les voyons tellement gigantesques. Mais les vrais, quelquefois, bloups, nous les avalons d'un seul coup. Jésus a parlé de ça. Alors, j'aimerais juste qu'on revienne, qu'on voit quelques versets ensemble. Qu'on voit quelques versets. Colossiens 2:15. Ça va être un petit peu, ça sera pas très logique comme suite, mais on va, je veux pas prendre beaucoup de temps. Colossiens 2:15. Ça, avec celui qu'on a lu tout à l'heure, ça c'est mes deux, trois versets préférés dans la Bible. Colossiens 2:15. Si j'en gardais qu'un, Je crois que si je gardais qu'un verset de toute la Bible, honnêtement, je crois que c'est celui-là. Christ a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, hein, en triomphant d'elles par la croix. Ça, pour moi, ça c'est mon verset préféré. Christ a dépouillé Pharaon. Il a dépouillé les puissances méchantes. Hein. Il leur a écrasé la tête. Il a accompli ce que disait Genèse 3.15. Hein. La postérité de la femme t'écrasera la tête. C'est ce qu'il a fait. Il l'a réalisé. Il a dans le ciel, il a triomphé. C'est-à-dire qu'il a fait un triomphe. C'est un terme technique dans le langage de l'Antiquité. Le général qui fait un triomphe parcourt les grandes avenues du pays, de la ville qui a été conquise. Et derrière lui, on a attaché avec une chaîne, le général vaincu qui est ligoté de chaînes comme ça, et le vainqueur fait un triomphe, c'est-à-dire qu'il promène en spectacle publiquement le général qu'il a vaincu. C'est quelque chose de très fort. C'est ce que Jésus a fait quand il a vaincu le diable, hein, et sur la croix, il a écrasé sa tête. Hein. Aujourd'hui, nous sommes délivrés. Aujourd'hui, nous sommes libres en Jésus-Christ. Hein. Apocalypse 12:11. Apocalypse 12:11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Mais voyez, parce que Christ a vaincu, ceux qui sont en lui ont vaincu aussi l'adversaire. Eux aussi, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Amen. C'est pour nous aussi, c'est pour toi ce soir. Tu peux être libre. Hein. Tu peux être délivré, tu peux voir tes chaînes brisées, tu peux voir les verrous tomber, tu peux voir ta prison s'ouvrir, hein, tu peux voir ton cerveau, ça y est, tout d'un coup se libérer. Tu peux voir cette emprise du légalisme, de la religion qui te tenait tellement amer, tellement sous un poids, tu peux voir tout ça s'en aller. Et tout d'un coup, tu es libre, hein, parce que la révélation de la parole de Dieu te libère. Hein. Alléluia. Philippiens 4, 13-1. Philippiens 4, 13-1. Je puis tout par celui qui me fortifie. Allez, nos étudiants, quand on apprend des versets, ça, ils aiment bien, parce que ça, c'est pas trop long comme verset, hein. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça, on y arrive, hein. Mais il suffit pas de l'apprendre, hein. Il faut que la révélation de l'Esprit de Dieu nous le fasse rentrer en nous et qu'on puisse sortir d'ici en disant c'est vrai. Dans ce tout, il y a tout. Dans ce tout, il y a toute chose. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Tout, 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 c'est exclusif, il reste rien. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout, je peux être libéré des conséquences, des blessures que j'ai contractées pendant toute ma vie, de tout le mal qu'on m'a fait, tous les sévices que j'ai gardés, de toutes ces cicatrices qui me font mal. Je suis dans mon âme, je suis écorché vif, mais je puis tout par Christ qui me fortifie. Alléluia. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Le monde, c'est, dans l'histoire de l'Égypte, le monde, c'était ce système carcéral, ce système qui empêche les gens de vivre, ce système qui veut la mort des hommes, ce système qui veut la mort du peuple de Dieu, ce système qui veut nous presser jusqu'à ce qu'on n'ait même plus le temps, 2 minutes de penser à Dieu. Ce monde qui veut la mort des hommes, c'est ce qu'on retrouve dans notre société aujourd'hui. Il faut plus qu'il y ait d'hommes. Il faut que les hommes deviennent efféminés. Il faut qu'ils aient plus de courage. Il faut qu'ils renoncent aux responsabilités. Il faut surtout plus qu'ils aient la pensée de devoir être des chefs de famille, par exemple. Et Pharaon veut tuer les hommes. Depuis le début, il y aura plus d'hommes. Eh bien, en Christ, il y en a. Alléluia. En Christ, il y a des gens qui sont libérés et qui sont contents d'être ce que Dieu a fait d'eux. Des vrais hommes qui aiment servir Dieu. Des vraies femmes qui aiment servir Dieu. Amen. On peut encore lire 1 Jean 3, 8, 1. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Ça, c'est pas extraordinaire? Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable dans ta vie. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable dans tes émotions. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable dans ta famille. Il est venu pour ça. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a réalisé. Il a réussi. Galates 5, 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pas un mot, c'est pas un vain mot, c'est pas une doctrine, c'est pas une théorie, c'est pas un vœu pieux, c'est pas un truc pour quelques-uns, c'est pas ce qui peut arriver de mieux à quelques-uns qui auront tiré le bon numéro. C'est pour tous, c'est pour toi, c'est pour chacun d'entre nous, c'est pour la liberté que Christ t'a affranchie. Et enfin dans Romains, on va finir avec encore deux versets, dans Romains 6. Romains 6, 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché, et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Affranchi du péché, affranchi du péché. Combien de fois, combien de gens s'en veulent, combien de gens sont esclaves non seulement du péché, mais ils sont esclaves de la culpabilité. L'esclavage de la honte est un esclavage redoutable, souvent invisible. Beaucoup de gens souffrent continuellement d'une forme diverse de culpabilité et de honte, et toute leur vie ils s'en veulent des mauvais choix qu'ils ont faits et de leurs péchés, et constamment plus ils ont honte, plus ils sont incapables de résister. Et c'est comme ça, c'est un cercle vicieux, et plus on est amer et plus cette fausse repentance qui est le remords le bouleverse les gens, et plus ils sont incapables de s'en sortir. Mais je vais te dire une bonne chose ce soir, une bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ te libère. Hein? Ce que tous tes efforts n'ont pas pu faire, Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Jésus l'a accompli. Jésus l'a réalisé. C'est fini, c'est fait, c'est entier. Il n'y a rien à rajouter. Il n'y a pas besoin de remettre un truc en plus. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose. Jésus l'a fait pour toi. Jésus l'a fait. C'est pour la liberté. Nous sommes affranchis. Et enfin, chapitre 8, verset 2, toujours dans Romains. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de la mort, la loi de la crainte. Ça aussi, c'est un esclavage terrible. Ça, c'est une prison redoutable. Tous ceux qui sont dans la crainte tous les jours, ils ont toujours une raison de craindre quelque chose. Tous les jours, une angoisse. Tous les jours, une frayeur. Tous les jours, un souci. Tous les jours, une menace. Tous les jours, quelque chose. À chaque instant, ça remonte de façon viscérale. Ça remonte dans les racines. Ça remonte à la peur de la mort. Et la peur de la mort entraîne la peur de la maladie, entraîne la peur de l'échec, ça entraîne la peur du noir, ça entraîne la peur du vide, ça entraîne la peur de tout. Toutes les peurs sont liées à ça. Parce que depuis le début, Dieu a dit en mourant, en péchant, en prenant de l'arbre défendu, en mourant, tu mourras. Et c'est cette peur de la mort. Mais Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Jésus est descendu dans la mort. Il a affronté la mort. Il n'a pas regardé la mort de loin. Jésus est devenu mort pour affronter la mort. Il est descendu dans le séjour des morts. Mais Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est sorti du séjour des morts. Jésus est sorti de la mort. Jésus est vivant aujourd'hui. Alléluia. Nous allons prier ensemble. On va fermons nos yeux quelques instants. On va prier. Seigneur notre Dieu, ô notre Dieu, notre Dieu tout-puissant, Dieu éternel, Dieu de gloire, Dieu si bon. Nous te louons, nous t'adorons, parce que nous avons découvert en toi cette vérité qui nous a rendus libres. Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir fait comprendre que nous étions des esclaves et de nous avoir libérés de Pharaon, de son royaume, de ses méchants, de son système. Merci d'avoir fait sortir tout cela de nous aussi. Je voudrais prier un instant pour tous ceux qui sont sous l'esclavage du péché. Seigneur Dieu, je te prie, Seigneur, qu'ils puissent maintenant recevoir cette révélation qu'en Jésus-Christ, hein, ils ont la capacité d'en sortir. Hein. Que personne ce soir ne puisse plus croire que cet esclavage est plus fort que lui, est plus fort que Christ. Hein. Que personne ne puisse plus croire ce soir que ce n'est pas possible d'en sortir. Hein. Je brise cette chaîne au nom de Jésus. Sois libre maintenant. Je te prie, Seigneur, que pour que tous ceux qui sont opprimés dans leurs pensées, tous ceux qui sont dans la culpabilité, dans la honte, dans la tristesse, dans la dévalorisation, tous ceux qui sont dans les craintes, les angoisses, les confusions, des troubles, hein, que tous ceux qui sont dépendants de vieilles blessures, hein, et tous ceux que le malin a persuadés de faire des briques, hein, de façon incessante, hein, que tout cela puisse maintenant savoir et recevoir par le Saint-Esprit cette révélation dans leur cœur, cette révélation que Jésus-Christ est venu afin de détruire ses œuvres, hein, que Jésus-Christ est venu afin de les libérer. Au nom de Jésus-Christ, entendez l'Esprit de Dieu qui vous dit que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Répète-le dans ton cœur. Dis-le, mets ton nom à la place. Dis-le, Jean-Marie, que le Fils a franchi est réellement libre. Mets ton nom dedans et dis-le, je suis affranchi par Christ réellement libre. Il n'y a pas de raison que quoi que ce soit demeure dépendant sur moi, demeure dominant sur moi, alors que j'ai demandé à Christ de me libérer et alors que lui l'a fait. Au nom de Jésus, sois libre en Jésus-Christ. Amen.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.